santé et faites un bon voyage avec Suno Assurance, qui vous garantit une assistance médicale d'urgence pendant votre séjour, ainsi que la recherche de vos bagages en cas de perte. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. Nous rencontrons tous des accidents de production verbale qui empêchent la parole de s'écouler de façon fluide. On appelle cela des disfluences. C'est le cas des « e », des « hum » que nous ajoutons dans nos phrases ou des tics langagiers qui consistent à mettre partout des « au fait »,« genre » ou « enfin ». Ces phrases que l'on ne finit pas et qui restent suspendues en plein milieu. Cela peut être agaçant pour la personne en face, mais c'est sans conséquence. Et puis il y a les disfluences évocatrices du bégaiement, la répétition saccadée de certaines syllabes, l'hésitation avant ou entre certains mots, le blocage de la parole au milieu d'une phrase comme si le mot suivant ne voulait pas sortir. Les bégayages, bégaiements et répétitions sont fréquents quand nous sommes fatigués ou très absorbés dans une tâche. Ils le sont encore plus chez l'enfant à l'âge où la parole se forme. 80% des petits de 2 à 7 ans vont présenter un ou plusieurs épisodes de bégaiement qui n'ont rien d'inquiétant et se résolvent seuls dans 9 cas sur 10. Mais certains signes doivent nous alerter et il est parfois nécessaire de consulter un orthophoniste pour ne pas renoncer à s'exprimer et se replier sur soi-même. Alors quels sont ces signes justement? Quand faut-il consulter? Quel est le rôle de l'orthophoniste? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invitée, Elisabeth Vincent, orthophoniste à Paris, vice-présidente de l'association Parole Bégaiement, auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet dont « Aider son enfant à parler et à communiquer » aux éditions De Buck. Nous serons également en ligne avec Eduardo Luc Adjacin, orthophoniste à Cotonou et Porto Novo, au Bénin évidemment, et secrétaire général de l'association béninoise des professionnels de l'orthophonie. Nous parlerons également d'une étude menée par le réseau Francim des registres des cancers, le service de biostatistique des hospices civils de Lyon, Santé publique France et l'Institut du cancer. Une étude qui permet d'avoir de nouvelles données sur la survie des personnes atteintes de cancer en France entre 1989 et 2018. Les explications de Morgane Mounier, la co-coordonnatrice de l'étude, à la fin de cette émission. Et évidemment, si vous souhaitez aussi participer à l'émission, posez une question à nos invités, et bien c'est très simple, vous nous appelez au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Elisabeth Vincent, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Le bégaiement, Elisabeth Vincent, est un trouble de la communication, une perturbation du rythme de la parole, mais ce n'est pas une maladie, c'est ça?
Non. Non, c'est une perturbation, effectivement, comme vous le dites très bien, du rythme de la parole, une perturbation des pauses également, qui sont souvent très mal placées. Voilà, une perturbation du flux de la parole, mais ce n'est pas une maladie.
Ce trouble est très méconnu, finalement, du grand public. Bien des mythes y sont associés. Par exemple, on pense que le bégaiement est un trouble psychologique, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas.
Non, c'est là. Enfin, c'est vraiment pas un trouble psychologique. Après, qu'il puisse avoir des incidences psychologiques, bien sûr. Mais actuellement, il est reconnu que c'est plurifactoriel. Il y a un facteur à la fois génétique, à la fois neurologique, et effectivement, tout ce qui va dépendre de l'environnement. Alors, il est méconnu, mais il commence heureusement à être mieux connu. Et on se réjouit de ce très très beau film, Le discours d'un roi, qui a permis de montrer le bégaiement de manière très très juste, de manière très touchante et à la fois poignante.
Alors, on confond souvent bredouillement et bégaiement. Quelle est la différence?
Alors, le bredouillement est également un trouble de la fluence, qui est finalement moins connu maintenant que le bégaiement, et qui est également très handicapant. Alors, la différence, c'est que le bredouillement est une parole extrêmement rapide, encore plus rapide que le bégaiement, et avec souvent des répercussions aussi au niveau de la pensée, c'est-à-dire une pensée qui va également très très vite, et qui a du mal à s'organiser.
Alors, Donc, quand les gens disent « je pense trop vite », ils ont raison finalement, c'est ce qui se passe.
On pense tous plus vite qu'on ne parle, heureusement, hein, mais pour certains, c'est peut-être encore plus marqué. À la fois pour les personnes qui bredouillent et souvent aussi quand même pour les personnes qui bégayent.
Alors, j'en ai un petit peu parlé dans le sommaire, mais quelles sont les différentes manifestations du bégaiement? Et y en a-t-il des plus difficiles à vivre et à prendre en charge, en raison évidemment du degré d'intensité?
Alors, c'est extrêmement variable. Vous avez des gens qui présentent un certain nombre d'accidents de parole, de répétitions, de blocages, et qui gardent une bonne communication, qui ne se cachent pas, qui continuent à parler. Et dans ces cas-là, je dirais que le préjudice est moins important que pour d'autres personnes qui vont au contraire cacher leur bégaiement. Vous avez des personnes qu'on ne va pas entendre bégayer, qui présentent ce qu'on appelle un bégaiement masqué, mais qui en souffrent énormément, parce que ça occupe énormément de place dans leur tête. Chaque fois qu'elles vont parler, elles vont chercher un synonyme, elles vont faire des périphrases, ce qui va les couper de l'interlocuteur et qui va vraiment être extrêmement douloureux à vivre.
Alors vous parliez des blocages, mais très concrètement, qu'est-ce qui se passe au moment du blocage ?
La parole ne veut plus sortir, c'est quelque chose d'assez mystérieux, parce que vous avez quelqu'un qui parle normalement, et subitement, ça bloque. Et ce qui est extrêmement perturbant pour les gens qui bégayent, c'est le côté, justement, ils ne savent pas avant, c'est-à-dire que ça peut arriver n'importe quand, voilà, de manière très, très impromptue.
Et lors d'un blocage, finalement, il y a une forme de panique qui oui, renforce le blocage, du coup.
C'est
un
vraiment,
cercle vicieux.
C'est vraiment une micro-panique, voyez. Ce qui fait que souvent les personnes sont complètement bloquées, c'est le cas de le dire, mais c'est vraiment de la micro-panique qui fait que la vie s'arrête, quoi, pendant un court instant, mais du coup, ça entretient également le cercle vicieux. C'est-à-dire que la panique va entretenir la peur de bégayer, qui à son tour va favoriser le bégaiement.
Alors, le bégaiement est une pathologie très courante chez l'enfant, oui, puisque près de 5% seraient concernés. Mais il touche principalement les petits garçons. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une explication ?
Alors, chez les petits, c'est autant de filles que de garçons, avant 4 ans. Après, alors, il peut y avoir plein de raisons, hein, on ne sait pas vraiment. C'est effectivement beaucoup plus de garçons, un peu comme dans tous les troubles qui concernent le langage.
On parlait des causes. Est-ce que le stress et la fatigue sont des facteurs favorisants ? Alors, on ne bégaye pas parce qu'on est stressé, mais est-ce que ça peut être un facteur favorisant ?
C'est un facteur effectivement favorisant, de la même façon, comme vous le disiez, de la fatigue, l'excitation également. Souvent, on voit ça chez les enfants qui sont très très excités pour des choses qui peuvent être très positives. Ça peut être la fête de Noël, enfin je ne sais pas. Et le bégaiement, à ce moment-là, va augmenter.
Alors, on a beaucoup de questions Facebook, hein, je vais me faire le porte-parole de nos auditeurs. Une question de l'habité de Lomé qui nous demande, est-ce que le fait d'être moqué quand on fait une faute grammaticale en parlant peut conduire au bégaiement ?
Conduire au bégaiement, non. Que ça puisse aggraver, augmenter le repli sur soi qui, lui, aggrave le bégaiement, oui.
Autre question de Chris en République démocratique du Congo. Quand je lis à voix haute, je bégaye beaucoup. Y a-t-il un lien entre bégaiement et lecture ?
Alors là, ça va être extrêmement différent selon les personnes. Vous avez des gens qui ne bégayent jamais en lecture et d'autres qui vont bégayer davantage en lecture. Voilà.
Bon. Une autre question qui revient très souvent, est-ce qu'il y a une base génétique ? Est-ce que si j'ai des parents bègues, j'ai plus de chances
oui,
d'être bègue ?
Oui, il y a effectivement, on présuppose des facteurs génétiques, il y a des familles où il y a beaucoup plus de gens qui bégayent. Et on dit que quand il y a un membre de la famille qui bégaye, il y a trois fois plus de chances, ou de risques plutôt, de bégayer. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour bégayer.
D'accord. Bon, ça c'est plutôt rassurant, voilà, parce que voilà, c'est une question qui revient vraiment très très.
C'est une bonne raison souvent d'être particulièrement vigilant au langage de l'enfant et à sa communication, mais ce n'est en aucun cas une raison pour devenir bègue.
Elisabeth Vincent, nous prenons tout de suite la direction de votre cabinet du 15e arrondissement de Paris. C'est là que vous avez reçu Ophélie Lassène, qui a été notre reporter pour le coup, et qui a pu assister à la séance d'orthophonie de Nicolas, 39 ans, qui bégait depuis son plus jeune âge.
Là, on va faire plutôt, là c'est vraiment le parler allongé, on allonge vraiment les voyelles.
Le plus grand serpent du monde est l'anaconda.
Je m'appelle Nicolas Garcia, je suis bègue depuis l'âge de 3 ans et demi.
À la famille des boas constrictors.
Le problème c'est que j'ai pris des mauvaises habitudes quand j'étais beaucoup plus jeune. Il faut arriver à les déconstruire.
C'était quoi ces mauvaises habitudes ?
Ben, là, actuellement, j'applique des techniques, Mais quand j'étais enfant, voire adolescent, j'appliquais très peu de techniques. Et c'est l'âge où on a tendance à parler beaucoup. Et j'ai hérité de ce côté très très impulsif quand je parle, parce que à cette période-là, je n'ai pas été traité. Dans mes études, et maintenant depuis que je vis à Paris, je vois des orthophonistes qui sont spécialisés, donc de l'association Parole Bégaiement, et je vois des gros progrès. J'ai fait un stage il y a 5-6 ans, donc, et là j'ai compris un truc, et que je ne faisais pas auparavant, c'est des pauses. Et ça, c'est vraiment très important, parce que tout se passe dans les pauses, et c'est impossible de se faire comprendre en parlant très rapidement.
Et justement, est-ce que vous, il vous arrive parfois de prévenir vos interlocuteurs quand vous sentez que vous allez peut-être un peu trop bégayer, de leur dire que vous pouvez, ça peut vous arriver ?
Je n'ai pas de mal à en parler, et j'en parle souvent de suite, soit par téléphone, parce que pour un mec, le téléphone, c'est ce qu'il y a de pire. Plutôt de faire semblant de ne pas bégayer, de prévoir qu'il peut y avoir un petit peu de bégaiement, je préfère dire que je bégaye. Et du coup, les gens sont très bienveillants. Je me rends compte que le bégaiement, il y a beaucoup d'angoisse. Et quand on calme l'angoisse en étant franc envers soi-même, finalement, moi, j'ai pas peur de dire le mot bégue. Alors que d'autres personnes bègues ont vraiment du mal.
Là, on a une autre technique pour faire, moi, ce que j'appelle un parler sautillant, où on va parler un peu comme ça, en rebondissant sur les syllabes. Comment c'est pour vous, cette manière de parler, finalement, c'est assez facile?
C'est assez facile, et je m'en veux de ne pas l'appliquer. C'est-à-dire que je sais que quand je fais ça, quand je parle comme ça, je ne bégaye pas. Et ça me demande un vrai effort parce que je suis bavard et que ça m'oblige à penser plus lentement et faire des phrases beaucoup plus longues. Donc c'est un vrai effort sur la durée. Il faut y penser tout le temps. Donc quand je tente de parler vite, je suis pas très bien compris. Donc du coup, je dois refaire la même phrase En boucle, et c'est fatigant. Je le vois sur la durée, si j'applique ma technique, je suis beaucoup moins crevé en fin de journée. Tout l'amour que j'ai pour toi, 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 toi.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certains moments, certaines situations dans lesquelles vous ne bégayez pas du tout?
Quand je lis un texte, je ne bégaye pas. Quand je chante, je ne bégaye pas. Quand je parle très lentement, j'ai très peu de chance de bégayer. Quand j'ai appris un texte par cœur, je bégaye presque pas. Quand c'est les vacances et que je suis entouré de proches et que j'ai pas trop de stress ou que je manquerai pas, a priori, je ne bégaye pas trop.
Est-ce que le bégaiement, il a un petit peu quelque chose à voir avec le regard des autres, du coup ?
C'est le regard des autres et en même temps le regard que je pense sur moi-même, je pense qu'il est beaucoup plus fort. En fait, quelle image est-ce que je vais donner aux autres? Je pense que ce qui me la grosse pression que je me mets à moi-même, c'est de vouloir être compris. Et c'est en faisant de la technique que je me rends compte que si je veux être compris, il faut parler beaucoup beaucoup moins vite. On y revient toujours, et de marquer des pauses.
Prendre son temps, ça serait la règle de base, alors?
C'est la règle d'or. C'est Churchill qui disait « Pour aller vite, je vais doucement ».
Des propos recueillis par Ophélie Lassen, que nous remercions. Une réaction, Elisabeth Vincent, vraiment... sans parodier de Churchill.
C'est vraiment un beau témoignage. Hein.
Oui, il est très riche, c'est pour ça qu'on l'a gardé dans la longueur.
Oui. Nicolas a dit des choses vraiment très importantes. Déjà, le fait de parler de son bégaiement, ce qui fait que c'est un bon communicant, malgré un bégaiement qui, par moment, est vraiment invalidant. Et voilà, c'est vraiment très, très important de pouvoir parler de ses difficultés et surtout de ne pas les cacher. Après, il montre bien toute la difficulté entre le travail technique tel qu'on peut le faire, je dirais, au cabinet, chez soi, et la spontanéité de la parole, où c'est effectivement très compliqué d'arriver à freiner une spontanéité qui est complètement automatique pour réussir à mettre en place une parole plus lente, plus contrôlée. Voilà, c'est effectivement la difficulté.
Alors habituellement, le bégaiement apparaît dès les premières années de parole et disparaît avant l'âge adulte. Pourquoi est-ce qu'il persiste dans certains cas ?
Alors habituellement, je ne sais pas, parce que ce qu'on dit, c'est que sur 4 enfants qui bégayent, il y en a 3 pour lesquels le bégaiement va partir. Mais celui pour lequel le bégaiement reste, continue à l'âge adulte, sans ne faire rien. C'est pour ça que dans le cadre de l'association Parole Bégaiement, on a beaucoup insisté sur la prise en charge précoce dès qu'il y a des signes du bégaiement, de manière à éviter que le bégaiement ne s'installe.
Allez, 33 1 84 22 75 75, notre numéro si vous souhaitez poser une question à notre invité. Et justement, nous sommes en ligne avec Macalé qui nous écrit de Conakry. Bonjour Macalé.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur l'antenne de RFI. Quelle est votre question, Macalé ?
Bon, j'aurais voulu savoir, j'ai un enfant de 5 ans, c'est l'aîné, mais à bas âge, elle commence à bégayer. Donc en classe, elle est timide, elle ne parle pas parce que si elle est énervée, elle dit des mots que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Mais si elle n'est pas énervée, elle parle doucement, elle peut me dire quelques mots que je peux comprendre. Même quand elle est énervée, c'est tout à fait le contraire. Et en classe, elle est timide. À force de parler que ses amis sont là à la regarder, elle bégue, donc elle n'arrive même pas à s'adresser à ses amis en classe. J'ai demandé à sa maîtresse, elle me dit qu'elle est timide, elle parle.
Mais du coup, est-ce qu'elle a des copines ? Est-ce que c'est un problème pour elle, pour avoir des amis, pour avoir des petits copines avec qui jouer ?
Bon, presque, elle n'a pas d'amis. Elle vient c'est regarder la télé, c'est d'observer, mais vouloir communiquer quand même, c'est pas ça, c'est un problème pour elle. Mm-hmm. Timide, toujours.
Et vous nous disiez hors antenne que son père est bègue également, non ?
Oui, son père bègue. Moi, de mon côté, dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui bègue. Mais son papa aussi, dès qu'il est énervé, on sent sa parole qu'il est en train de bégayer. Donc, j'aurais voulu avoir quelques solutions. Parce qu'au fur de temps, je ne sais pas si maintenant elle va cesser de bégayer. Si j'ai des solutions, de l'aide à faire avec elle, pour ne pas qu'au futur, ou bien en grandissant, qu'elle grandisse de la sorte.
Eh bien, écoutez.
Être timide comme ça.
Elisabeth Vincent, qui est à mes côtés, va vous donner quelques pistes, quelques conseils. Alors, il ne s'agit pas d'une consultation radiophonique, bien évidemment, mais écoutez les conseils d'Elisabeth Vincent.
Alors, peut-être la première chose, c'est d'en parler avec elle. Est-ce que vous avez évoqué avec elle ses difficultés de parole ? Ne serait-ce que lui dire, tu sais, il y a plein d'enfants à ton âge qui ont un petit peu du mal à parler. Voilà, on va t'aider. Et pour l'aider, les conseils qu'on peut donner, c'est déjà de prendre un moment tous les jours pour vraiment parler avec elle tranquillement, veiller à ce qu'elle vous regarde, à la regarder, à ne pas hésiter à lui proposer un mot quand elle n'arrive pas à le dire, à répéter derrière elle. Surtout, ne la faites pas répéter, mais vous pouvez redire derrière elle. Tout ça sur un ton extrêmement détendu, de manière à ce qu'il y ait des moments d'interaction vraiment privilégiés avec elle. Par rapport à l'école, ça serait important d'en discuter avec la maîtresse. Est-ce que la maîtresse pourrait dire un petit mot avec l'accord de votre fille pour expliquer aux autres enfants ce que c'est que le bégaiement ? Qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont des difficultés à un moment de leur vie pour X raisons. Il y a effectivement un petit facteur génétique, si j'ai bien compris. Un facteur sans doute de tempérament de votre enfant qui a tendance plutôt à se replier plutôt qu'à aller vers les autres. Mais voilà, peut-être si la maîtresse pouvait en parler dans le cadre de la classe, ça pourrait l'aider. Et puis surtout l'encourager vraiment à faire des petites choses, à aller jouer avec ses camarades. Enfin, voilà. C'est difficile de vous donner vraiment plus de conseils. Allez voir sur le site de l'association Parole Bégaiement, si vous le pouvez. Il y a beaucoup, beaucoup, on a essayé de mettre beaucoup de documentation de façon à aider les personnes qui n'ont pas d'orthophoniste sous la main. Voilà ce que je peux vous dire. Mais surtout, encouragez-la. c'est pas parce qu'elle bégayait il y a 5 ans qu'elle va rester bègue. Hein, c'est très important de... Voilà, moi je vous encourage absolument à en parler de manière dédramatisée. Il y a plein d'enfants qui bégayent, on va l'aider, voilà.
Eh bien écoutez, voilà pour les explications d'Élise Vincent, et donc comme elle, Elisabeth Vincent, pardon, et comme elle l'a bien précisé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'association Parole Bégaiement, hein, toutes les informations sont dessus, vous aurez tout un tas de conseils à lire qui pourront vous aider. En tout cas, merci beaucoup Makalé de nous avoir appelé de Conakry, bonne journée à vous. I got a good feeling. I got a good feeling. I got a good feeling. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. I got a good feeling. I'm going harder than before, let me shout. I run around the whole world, chasing that thrill. From the bottom to the top, I finna knock it out. I'm about to blow, ready on the go. Steady shining brighter than I ever did before. When I'm up in the clouds, and I ain't coming down. No, I ain't coming down, oh no. I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going, and turn it up loud. I got a good feeling. Yeah. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. I got a good feeling. Yeah. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. Starting at the tip of my toes. In my head and my clothes, oh Lord, ain't nothing holding me back, so I don't gotta heal the smack, no more, play it loud. Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons du bégaiement avec notre invitée, Elisabeth Vincent, orthophoniste à Paris, vice-présidente de l'association Parole Bégaiement. Mais tout de suite, direction Cotonou. Nous sommes en ligne avec Eduardo Luc Adjacin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Vous êtes orthophoniste à Cotonou et Porto Novo, évidemment c'est au Bénin, secrétaire général de l'association béninoise des professionnels de l'orthophonie. Un petit mot, Eduardo Luc Adjacin, sur la prévalence au Bénin, est-elle importante? Est-ce que c'est un problème de santé publique finalement, le bégaiement?
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. On peut le dire ainsi, d'autant plus que le bégaiement atteint environ 2%. Des enfants, en milieu scolaire notamment. Donc je pense que c'est important, d'autant plus que cela va empêcher ces enfants-là de pouvoir être intégrés et de pouvoir réussir du moins leurs apprentissages scolaires.
Et justement, est-ce que les professeurs sont formés pour recevoir des enfants qui bégaient? On connaît l'importance du lien entre éducation et parents.
Malheureusement, non. Chaque enseignant se débrouille à sa façon, s'il est informé, oui. Mais de plus en plus, quand même, depuis que nous, en tant qu'orthophonistes, nous faisons quelques sensibilisations dans les écoles, on ne peut pas dire que...
Oh là là, attendez, la ligne est en train de se détériorer, donc on va essayer de régler ça évidemment hors antenne. Je vais tout de suite donner la parole à Elisabeth Vincent. On parlait donc de la collaboration avec l'école, elle est essentielle. Oui. Il est important que les professeurs soient au courant.
Absolument, c'est vraiment important, surtout que les professeurs ont affaire à des classes de 30 élèves, ils ne peuvent pas forcément être attentifs enfin, autant qu'on le souhaiterait. Et en plus, ils sont souvent démunis parce qu'ils ne savent pas comment faire face à un enfant qui bégaye. Alors là, c'est pareil, je renvoie à nouveau à l'association, mais on a également fait tout un travail auprès des enseignants de façon à leur donner des outils pour savoir comment réagir face à un enfant qui bégaye. Je voudrais juste rebondir sur une chose qu'a dit votre invité, c'est il n'y a pas forcément de lien avec l'échec scolaire. Les enfants qui bégayent souvent sont... enfin, c'est aussi une généralité un petit peu limitée, mais peuvent être tout à fait bons à l'école, être réussir à l'école. Mmh. Le seul problème, c'est qu'ils vont avoir tendance à ne pas participer à l'oral.
Et oui, c'est ça, par timidité, on l'a compris, avec ce que disait Macaulay tout à l'heure, avec sa fille qui n'ose pas participer.
Absolument. Et parfois, ils vont préférer donner l'impression qu'ils ne savent pas, plutôt que parler. C'est là où l'instituteur a, il faut qu'il soit vigilant.
Bien sûr. On a retrouvé Eduardo Luc adjacent. Est-ce que le bégaiement, enfin, comment le bégaiement est perçu par la population au Bénin?
Je pense que, comme dans tous les pays, les personnes bègues intéressent beaucoup plus les enfants en bas âge. Donc, et les personnes bègues peuvent être au sujet à des railleries, à des moqueries. Mais dans la population adulte, les personnes bègues ne sont pas pour autant critiquées, ne sont pas pour autant persécutées, si vous voulez. En ce qui concerne leur intégration, je crois qu'elle se passe plutôt bien. Mmh. Le problème se situe plutôt de la personne, au niveau de la personne bègue elle-même, qui, du fait de son repli sur lui-même, peut avoir du mal à s'ouvrir vers les autres.
Est-ce que les patients viennent facilement vous voir, ou est-ce que les parents emmènent souvent leurs enfants au cabinet, ou est-ce que c'est problématique, ça?
De plus en plus, oui. D'autant plus qu'on reçoit de jour en jour d'enfants qui viennent précocement, qui viennent au bas âge, déjà à 2 ans et demi. Depuis un certain nombre d'années, les parents appellent déjà dès qu'ils sentent un léger changement dans la parole de l'enfant, une modification, plutôt à l'âge où le langage éclore, où les enfants tentent de construire leur première phrase autour de 2 ans et demi. Les parents consultent de plus en plus systématiquement. Alors que par le passé, il faut attendre l'âge adulte avant de recevoir les patients.
Mmh. Vous voulez rajouter un petit mot, Elisabeth Vincent?
Je suis très contente d'entendre ça, hein, c'est une bonne nouvelle. Parce que plus on intervient tôt, justement, comme je disais tout à l'heure, le fait de donner des conseils pour éviter que le bégaiement ne court le risque de s'installer, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Eduardo Luc adjacent, encore une dernière petite question sur le multilinguisme, parce qu'on sait qu'il y a souvent des liens entre bégaiement et le fait de parler plusieurs langues. Vous au Bénin, comme partout en Afrique de l'Ouest, hein, on parle plusieurs langues. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui favorise le bégaiement ou pas?
À mon humble avis, je ne pense pas. Je ne pense pas, d'autant plus que les enfants qui ne bégaient pas, pour la plupart, parlent beaucoup de langues et ne bégayent pas. Je ne crois pas que ce soit le facteur qui favorise le bégaiement.
Elisabeth Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au multilinguisme? Parce que c'est une question qui revient très fréquemment également.
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le fait de pratiquer plusieurs langues n'est pas un facteur de bégaiement. Après, que ça induise, on va dire, une surcharge cognitive, que ça puisse prendre un petit peu plus de temps pour que les enfants soient vraiment à l'aise dans les différentes langues, oui. Mais ce n'est pas un facteur de bégaiement.
Eh bien écoutez, merci infiniment Eduardo Luc adjacent. Je rappelle que vous êtes orthophoniste à Cotonou et à Porto Novo au Bénin donc. RFI. Allez, 33 1 84 22 75 75, on repasse au standard. Nous avons un deuxième auditeur, c'est Alex qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Alex.
Oui, bonjour quoi.
Quelle est votre question? Oui. Nous vous écoutons.
Bon. Bon, moi, c'est depuis mon enfance, j'ai ce problème de bégaiement. Voilà, et bon, jusqu'à présent, je suis en année de master 2. Et bientôt, je vais faire ma thèse. Personnellement, je n'arrive pas à m'exprimer correctement comme les autres amis. Et souvent même, je n'arrive pas à prendre la parole en classe. Je suis carrément silencieux en classe. Voilà, parce qu'il y a honte. Il y a honte, je pense que voilà, c'est un peu ça qui me fait le problème actuellement.
Et alors, je sais que vous devez présenter bientôt votre thèse. Il va falloir vous exprimer devant un grand public. Ça vous stresse, ça, de devoir présenter votre thèse?
Effectivement, c'est beaucoup stressant. En tout cas, dans un an maximum, en tout cas, j'ai fait ma thèse. Et voilà, c'est ça qui me fait un peu peur. Voilà.
Et vous pensez c'est que ça pourrait vous faire louper votre thèse? Que ça pourrait être un handicap pour le passage de cette thèse?
Effectivement, oui. Donc, ça peut être un facteur de blocage. Hein. Voilà. Avec les membres du jury, vraiment, qui sont un peu exigeants. Donc, si je n'y allais pas bien assumé, bon, on peut me recaler tout ça.
Mmh, bien sûr. Eh bien écoutez, Elisabeth Vincent va vous donner quelques conseils. Alors je répète encore une fois qu'il ne s'agit pas de consultation téléphonique, juste de conseils à prendre tels quels.
Alors je ne sais pas si vous auriez l'opportunité de rencontrer d'autres personnes maigres au Burkina Faso, parce que ça peut vraiment aider. Le fait de vous parler de honte, vous parler du fait de ne pas oser parler et de pouvoir partager avec d'autres personnes maigres, ça serait vraiment une très bonne chose pour vous. Ou alors peut-être via les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de sites qui existent pour les personnes qui bégayent, dont le cercle très privé pour personnes qui bégayent ou le site de Laurent Lagarde. Voilà, le fait de partager, je crois que ça serait vraiment très important pour vous. Après, la deuxième chose que je peux vous encourager à faire, c'est pourquoi pas ne pas dire un petit mot au moment où vous êtes en difficulté, en classe, vous entraîner en classe peut-être à pouvoir dire ben, comme vous pouvez le voir, je bégaye un peu, des fois c'est un petit peu long. Peut-être, si vraiment vous êtes embêté le jour de votre thèse, enfin, moi j'ai souvent l'expérience avec des patients qui passent des examens et qui présentent, comme disait Nicolas tout à l'heure, qui commencent par dire voilà, j'ai un petit problème de bégaiement. Et des fois, je bute sur les mots, donc je vous remercie d'être patient, enfin ce genre de choses, vous voyez.
Est-ce que ça vous aide, Alex?
Bon.
Est-ce que vous pourriez rencontrer d'autres personnes bêtes, par exemple, ce que commençait à dire Elisabeth Vincent?
Bon, je vais essayer de voir ça, de mon côté.
Ça serait vraiment, vraiment une très bonne chose, parce que ça aide énormément. Après, par rapport au travail technique lui-même, peut-être vous pouvez vous entraîner à essayer de parler légèrement ralenti, en allongeant un peu les voyelles, vous voyez, sur un ton légèrement chantant, et petit à petit à accélérer. Peut-être ça pourrait vous aider.
D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de voir comme ça pour voir.
Bon, ben écoutez, on vous souhaite plein de courage et puis surtout, on croise les doigts pour votre thèse. Merci en tout cas, Alex, de nous avoir appelé de Ouagadougou. Et évidemment, vous, chers auditeurs, vous continuez à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Elisabeth Vincent, on va parler à présent du rôle de l'entourage, parce qu'il est essentiel, le rôle de l'entourage, à la fois le rôle des parents, de la fratrie. Pourquoi est-ce qu'il est si primordial?
Parce que le bégaiement se construit dans la relation à l'autre. Généralement, on ne bégaye pas quand on parle tout seul. C'est extrêmement rare de bégayer tout seul. Et comme on a entendu dans le témoignage tout à l'heure, ce qui est vraiment important, c'est le regard des autres, la manière dont on vit le regard des autres. D'où l'importance de travailler avec les parents, vous voyez, quand l'enfant est petit, de manière à ce que l'enfant se sente encouragé et non pas jugé lorsqu'il parle. Parce que c'est très compliqué quand on est en difficulté, on a du mal à parler. Si en plus on sent la désapprobation au niveau de l'entourage, ça va renforcer les difficultés.
Alors, j'ai lu la phrase. Face à un enfant bègue, il est capital d'observer la bonne attitude. Des réflexions comme « calme-toi, prends ton temps, recommence » peuvent être délétères et peuvent ancrer le bégaiement. On croit aider l'enfant et au fait, on empire la situation, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je reviens à la bonne volonté, vous voyez, quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire calme-toi, respire, prépare ta phrase avant de parler, ça c'est la pire. Puisque ce qu'on voit chez les adultes après, c'est justement qu'ils ont pris l'habitude de préparer leurs phrases, et ça c'est vraiment, vraiment très embêtant. Donc la manière d'aider, c'est, ok, on peut très bien dire à l'enfant, j'ai tout mon temps, vous voyez, mais dire à un enfant...
Je t'écoute, voilà, c'est à l'adulte de s'adapter, c'est ça?
Exactement. Je suis disponible pour toi, je t'écoute, j'ai tout mon temps. Vous dites un enfant respire, il sait pas ce que ça veut dire, et généralement il a déjà trop d'air. Donc vous voyez, ça va renforcer au contraire la panique. Lui dire prends ton temps, ça veut pas dire grand chose non plus. La parole se cale sur l'écoute de l'interlocuteur.
Il faut stimuler l'auto-écoute. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors ça c'est intéressant, c'est aussi, on va être dans l'échange avec l'enfant qui bégaye, mais on va être attentif aussi à ce qu'il écoute. Parce que souvent, quand on bégaye, on est tellement pressé de parler, vous voyez, il y a cette course à la parole, et on est tellement content quand les mots passent qu'on en oublie d'écouter les autres. Et j'insiste, la parole se cale sur l'interaction. Donc c'est très important avec les enfants, il y a des enfants bègues qui parlent énormément. Donc de pouvoir leur dire, attends, là, tu écoutes, c'est le tour de ta sœur, c'est le tour de ton frère, chacun son tour.
Allez, on repasse au standard. On a de nombreux auditeurs qui souhaitent vous poser des questions et on est ravis qu'ils nous appellent. On va partir maintenant à Lubumbashi, donc toujours en RDC. Nous sommes avec Orphée Skouza. Bonjour Orphée Skouza.
Bonjour Igor, bonjour docteur, bonjour Arichi, bonjour Priorité Santé.
Ah bah écoutez, soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI. Quelle est votre question, votre témoignage, Orphée ?
Bon, j'ai deux petites questions à poser en rapport avec ce sujet si important. Mais d'abord, avant cela, j'aimerais dire le petit témoignage sur moi, en fait. Il faut dire que j'ai remarqué dans mon bas âge que j'avais des difficultés d'expression, la prononciation de certains mots, répétition, lourdeur de la langue. Alors c'était vraiment difficile pour ma petite enfance, à la maison, dans les jeux et tout, en cas de problème, c'était vraiment difficile pour faire entendre sa raison. Et à la place, c'était des pleurs parce que c'était énorme, difficile, écœuré. Et j'ai remarqué que c'était pendant des moments de d'émotion, de colère, de tristesse, que je n'arrivais pas à achever mes mots. Je n'arrivais pas à prononcer correctement. Alors avec mes parents, on a reçu beaucoup de conseils, notamment il faut pratiquer ceci, pratiquer cela, il faut intégrer la chorale, chanter, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont bègues, mais en chantant, ils ne bègent pas. À l'âge de 8 ans, on a suivi ces conseils. J'ai intégré une chorale de mon église et l'église catholique à l'époque. Et au fur et à mesure, chanter. Mais j'ai remarqué que quand j'ai chanté, je ne bégayais pas. Alors je me demandais c'est quel phénomène en fait, qu'est-ce qui expliquerait cela. Et au fur et à mesure, mais bon voilà, et, je me suis rendu compte après, quelques années plus tard, que je bégayais plus. Je bégayais plus. Et je crois que c'était à mon adolescence. Alors c'était étonnant pour moi parce que moi-même je ne suis pas en mesure de dire quand est-ce que exactement j'ai cessé de bégayer. C'est simplement un jour qu'on me dit l'entourage, la famille, mais écoute, tu bégayes plus, c'est quoi? Toi tu étais bègue avant. Alors je me suis rendu compte exactement j'étais bègue. Mais comment c'est parti? Et aujourd'hui, je suis journaliste, présentateur journal, radio, télévision, ici à Lubumbashi, mais bon, c'est une grande fierté pour moi parce que je parle sans difficulté. Alors j'aimerais savoir, parce que dernièrement, j'ai ressenti cette lourdeur revenir de la langue. Donc je pense qu'il y a quelques mois, pour pas dire une année, je sens que quand je vais dire un mot, la langue devient lourde. Mais après, j'ai fait beaucoup d'efforts et puis là, c'est normal. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui explique comment est-ce que je suis parvenu à ne plus bégayer et je parle normalement aujourd'hui.
Et est-ce que ça peut revenir? Excusez-moi, je vous coupe parce que ça commence à être un petit peu long. Donc on va demander à Elisabeth Vincent de bien vouloir vous répondre et vous donner quelques conseils. En tout cas, merci Orphée parce que c'était vraiment clair, précis, concis. Qu'est-ce qu'on peut dire, Elisabeth Vincent?
Moi, j'ai
donc un bégaiement qui commence, qui part à l'adolescence sans qu'il sache exactement le moment venu. Et puis là, des petites lourdeurs qui pourraient laisser entendre que ça pourrait revenir.
Alors, le bégaiement est effectivement quelque chose qui reste quand même, on va dire, un peu mystérieux. Parce que, voilà, vous ne bégayez plus, alors pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Peut-être qu'on peut, à vous entendre, penser que vous aimez communiquer. Vous êtes journaliste, vous aimez la relation aux autres, vous aimez parler, voilà, vous aimez communiquer. Je crois que ça a été sans doute très important pour vous. On peut imaginer qu'à l'adolescence, vos difficultés ne vous ont pas empêché d'aller vers les autres. Et que, voilà, je pense que ça, c'est des facteurs vraiment très importants. Après, bon, ressentir encore des lourdeurs de la langue, ça, je ne saurais pas vraiment vous dire. Peut-être que vous pouvez encore avoir de temps en temps une petite tendance à bégayer, mais qui ne présentera pas de problème, puisque vous savez réagir à ça. Hein, vous... Et par rapport au chant, effectivement, on ne bégaye pas quand on chante. Alors, c'est pareil, il y a plusieurs raisons. Déjà, le fait que quand on chante, on allonge énormément les voyelles. Et ça, c'est quelque chose qui permet de ne pas bégayer. Et puis, quand on chante, on ne s'adresse pas à quelqu'un. Je disais tout à l'heure, le bégaiement s'installe dans la relation à l'autre. Quand on chante, on est plutôt dans quelque chose de cadre religieux, d'un peu fusionnel, ou voilà, et on ne bégaye pas.
Est-ce que ça vous convient, Orphée ?
Oui, mais pas totalement, parce que j'aimerais savoir c'est quoi la raison, comment je vais expliquer que j'ai bégayé plus.
Alors on va essayer de vous répondre, mais vous avez compris que tout ça est très subtil et que il y a certaines questions, malheureusement, auxquelles on ne peut pas répondre, car les scientifiques eux-mêmes n'ont pas d'apporter. Alors, je vous redonne la parole, Elisabeth Vincent. Qu'est-ce qu'on peut, conclure?
On est obligé d'être un peu humble en la matière, parce que c'est vrai que je ne peux pas vous dire pourquoi vous avez bégayé, pourquoi vous avez arrêté de bégayer. Je peux juste vous citer des facteurs qui ont fait que ça a favorisé l'arrêt de votre bégayement.
Eh bien, écoutez, on va vous remercier, Orphée Skouza de Lubumbashi. Merci infiniment de nous avoir contactés. Merci pour ce témoignage et ces questions. On espère que vous ne sortirez pas trop frustré de cet entretien. En tout cas, merci à vous et bonne journée à Lubumbashi. Elisabeth Vincent, on va parler un petit peu des traitements. Peut-on soigner le bégaiement?
Oui,
s'auto-soigner, on a compris.
Voilà. Mais vous avez certaines personnes qui... Alors, évidemment, je suis orthophoniste, je m'occupe de personnes qui bégayent. Je ne vais pas vous dire qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, sinon j'aurais changé de métier.
Alors, soigner et améliorer, il y a peut-être aussi une nuance.
Voilà. Je crois que c'est très important, quand on a un patient qui arrive, déjà de lui dire, il ne s'agit pas d'éradiquer le bégaiement, ça n'a pas de sens. Il s'agit d'arriver à bien vivre et à le rendre gérable. C'est-à-dire, pour certaines personnes, le bégaiement va quasiment disparaître. C'est possible.
Voilà, en fait, le cerveau reste plastique toute la vie, c'est ça?
Oui, on peut le
remodeler, voilà, le réorganiser.
C'est ça. Ça demande aussi extrêmement de motivation. Donc, il y a des moments pour faire ce travail-là. Il faut pouvoir être disponible dans sa tête et pouvoir vraiment y consacrer du temps. Après, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Eh bien, moi, j'ai une question à vous poser sur les traitements orthophoniques, justement. Oui. Alors, on a entendu tout à l'heure avec le patient qu'Ophélie Lassen a suivi, mais en quoi consistent ces traitements orthophoniques?
On a plusieurs axes. D'abord, un axe, on va dire, physique, sur la gestion de la parole, ce que vous avez pu entendre avec Nicolas, où il y a toute une technique où on travaille sur le parler allongé, qu'on va accélérer progressivement de manière à retrouver le plus de naturel possible. Il y a d'autres techniques du style, maintenant on pratique un petit peu ce qu'on appelle le parler robot, que moi j'appelle le parler sautillant, c'est cette idée de contrôler la parole de manière à éviter les bégaiements. Ça c'est une première partie du travail qui demande un entraînement assassinu. Et la deuxième partie c'est vraiment de pouvoir parler de son bégaiement. Ça c'est très important. Vous pourrez faire toute la technique que vous voulez, tant que vous cherchez à cacher votre bégaiement, que vous aurez honte, ça ne marchera pas.
Il faut donc assumer son bégaiement et ne pas avoir peur de s'exprimer.
D'où l'importance du partage. Et actuellement, il y a de plus en plus de... Aussi bien au niveau thérapeutique, on fait de plus en plus de groupes thérapeutiques. Au niveau des médias, c'est vraiment très important de partager de manière à sortir de l'isolement dont se nourrit le bégaiement.
Existe-t-il des traitements médicamenteux?
Pour l'instant, on n'a rien trouvé.
Alors... certains médicaments sont prescrits, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne guérissent pas, mais qu'est-ce qu'ils permettent finalement?
Pour certains, ça va agir sur le stress. On a vu que les émotions, effectivement, pouvaient augmenter le bégaiement. Après, il faut quand même bien mesurer le pour et le contre.
En définitive, ah oui.
Juste une petite parenthèse.
Allez-y.
On parle beaucoup du stress, mais moi j'ai des patients qui des fois bégayent parce qu'ils ne sont pas assez stressés.
Ah, inversement.
Voilà. Il faut quand même, vous allez passer un examen oral, il faut aussi avoir un petit peu de stress, quelque chose qui va motiver, c'est de l'énergie qui va aussi pousser vers l'avant. Voilà, le tout est de ne pas être débordé.
En définitive, et pour résumer notre conversation, on parle à un public africain qui n'a pas forcément accès aux orthophonistes. Ils sont pas forcément en brousse. Quels sont, de façon très synthétique, les conseils qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas accès aux orthophonistes? En 10 secondes, qu'est-ce qu'il est important de faire? Parler de son bégaiement?
Voilà. Partager, parler de son bégaiement. Essayer de ne pas parler trop vite. Faire des pauses, regarder son interlocuteur, ne pas hésiter à lui demander s'il a compris, vraiment rétablir l'interaction.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Elisabeth Vincent, d'être passée dans ce studio. Je rappelle que vous êtes orthophoniste à Paris, vice-présidente de l'association Parole Bégaiement. Je vous incite à aller d'ailleurs sur le site de l'association Parole Bégaiement. Il y a une, c'est une mine d'informations. Voilà. Vous trouvez toutes les réponses à vos questions.
J'aurais juste voulu rajouter une toute petite
Alors,
chose.
Alors, en 10 secondes à peine.
10 secondes. Parce que par rapport justement aux pays francophones en Afrique, à l'association, on est en train de monter un projet pour essayer de venir en aide, pour faire des partenariats. Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées, n'hésitez pas à contacter l'association. C'est vraiment un très beau projet qui va se faire sur l'Afrique.
Eh bien, écoutez, j'espère qu'ils n'hésiteront pas à vous contacter. Merci à vous en tout cas, Elisabeth Vincent, et
merci
très bonne
vous.
Journée.
RFI.
Priorité santé, suite et fin, avec un tout autre sujet à présent. On va s'intéresser à une étude menée par le réseau Francim des registres des cancers, le service de biostatistique des hospices civils de Lyon, Santé publique France et l'Institut du cancer. Une étude qui permet d'avoir de nouvelles données sur la survie des personnes atteintes de cancer en France entre 1989 et 2018. Morgane Mounier, bonjour.
Bonjour Igor.
Vous êtes ingénieur d'études d'une équipe de recherche rattachée au CHU de Dijon et co-coordonnatrice de l'étude. Alors, quel est l'intérêt de cette étude, finalement, Morgane Mounier?
Alors, tout d'abord, je vais vous remercier pour votre invitation.
Mais je vous en prie.
Alors, l'intérêt de cette étude, c'est tout d'abord d'avoir une actualisation des données de survie en France, puisque on sait qu'aujourd'hui 3,8 millions de personnes vivent avec le cancer en France et que plus de 1000 personnes sont diagnostiquées d'un nouveau cancer chaque jour. Donc il est vraiment important de pouvoir disposer d'indicateurs pour la surveillance épidémiologique du cancer dans notre pays et ainsi visualiser l'efficience globale de notre système de soins.
Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Cette étude montre une amélioration globale, c'est ça, des pronostics dans la quasi-totalité des localisations cancéreuses? C'est un peu ça, c'est plutôt optimiste?
Alors oui, c'est plutôt optimiste. Donc on avait déjà montré dans notre précédent rapport qui avait été publié en 2016 déjà une amélioration de la plupart des localisations de cancer. Mais effectivement, cette nouvelle étude nous permet déjà de confirmer cette amélioration qu'on observe dans une majorité des tumeurs solides et des hémopathies. Alors bien sûr, cette amélioration, elle est aussi variable donc selon les localisations. Et variable également selon l'âge, au diagnostic, au moment où le patient est diagnostiqué de son cancer. Néanmoins, il y a effectivement des gros progrès qui ont été faits dans la prise en charge des patients, et ça se ressent au niveau des résultats de survie.
Alors, en revanche, pour certains cancers du sein et de la prostate, les personnes jeunes ont une survie moins élevée en raison d'une plus grande fréquence de tumeurs plus agressives. Est-ce que ça doit nous inquiéter, cela?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, à l'exception, dans la globalité, plus l'âge au diagnostic augmente et plus la survie diminue malheureusement. Donc ça, c'est ce qu'on observe dans une grande majorité des localisations étudiées. Mais effectivement, comme vous l'avez précisé, il y a des exceptions. Pour le cancer du sein et de la prostate, on constate que effectivement la survie des sujets jeunes est moins élevée que celle des personnes d'un âge intermédiaire, on va dire. Et c'est effectivement ce que vous venez de préciser. En fait, c'est la présence de tumeurs qui sont davantage agressives.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Morgane Mounier, d'avoir été avec nous pour nous présenter les résultats de cette étude. Très bonne journée à vous. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. Demain, nous parlerons de la cystite, une inflammation de la vessie, véritable cauchemar au féminin. Évidemment, nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Ophélie Lassène, Louise Calais, Didier Bleu, Laurent Hérault, Igor Strauss, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous garantit un bon voyage avec une assistance médicale d'urgence pendant votre séjour ainsi que la recherche de vos bagages en cas de perte. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Et dans 10